Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'audiovisuel, c'est le nouveau passeport de l'Afrique. Des films nigériens aux séries sénégalaises, le continent écrit ses récits, façonne ses images, exporte ses réalités. Chaque plan met en lumière des paysages sublimes, des cultures riches, des talents bruts. Et grâce également aux nouvelles technologies, l'Afrique n'est plus spectatrice, elle est actrice de sa narration. Une caméra, un bon scénario, et voilà toute une destination qui devient tendance. Et pour la destination du jour, direction le Sénégal pour parler de cinéma. Avec un jeune qui évolue dans le milieu, connu comme également un acteur du développement de séries sénégalaises, Massamba Kassé, dit Mas Kassé également, aujourd'hui nous fait l'honneur de faire le tour de l'actualité concernant l'audiovisuel et son style, lui, de réalisateur, scénariste et également dramaturge. C'est en libre. Bonjour à vous, Mas Kassé.
Bonjour, monsieur Ababakar.
Alors, Mas, aujourd'hui, comment se porte le secteur de l'audiovisuel au Sénégal?
Bon, le secteur de l'audiovisuel sénégalais actuellement, il y a eu des améliorations et on est en train de perfectionner, donc, tout ce qu'on peut dire actuellement et que ça commence à prendre d'autres envergures.
Et par rapport également à cette envergure, nous avons vu également qu'un nouveau style de cinéma, tout en respectant également les règles, sont en train de se développer au niveau du, est en train plutôt de se développer au niveau du Sénégal, avec des touches plus axées sur les réalités culturelles nationales. Aujourd'hui, comment également dans cette dynamique vous parvenez à agencer modernité, culture et réalité socioculturelle actuellement?
Bon, au début, on ne voyait que des telenovelas ou bien des séries importées d'autres continents ou bien d'autres pays. Donc nous qui sommes des jeunes issus du théâtre et nous avons vécu beaucoup de choses concernant nos familles, nos cultures. Donc dès le début, nous avons décidé de proposer d'autres types de scénarios, d'autres types de réalisations, en sachant que les Indos ou bien les Américains nous ont proposé leur type de réalisation, leur culture à travers des séries. Donc nous tous, ce qu'on peut faire est valoriser nos techniques de faire, en commençant par nos cultures, par nos styles de réalisation. Parce qu'ici au Sénégal, nous avons des contes, du théâtre scénique, donc des histoires qu'on raconte et on s'est basé sur ces événements-là pour créer notre style de réalisation. Si je prends mon cas, à bas âge, je fréquentais la télé, donc à la RTS, chaque mercredi ou bien chaque dimanche, on était sur place pour faire du théâtre, pour poser des jeunes ou bien des enfants à but éducatif. Donc, nous sommes grandis sur ces environnements-là. Dès notre première production, on a amené notre touche. Donc, cette touche-là n'est rien d'autre amener du théâtre scénique sur l'audiovisuel ou bien sur le cinéma en traitant des thèmes universels et en respectant notre culture. Par exemple, ma première production avec une boîte, on a fait amener une Française qui a interprété un rôle avec une autre Sénégalaise traitant un problème de coépouse. Nous savons tous que le problème de coépouse, ce sont des problèmes qu'on a l'habitude de voir ici au Sénégal ou bien en Afrique. Un homme qui a deux ou bien trois femmes, comment il parvient à le gérer? Comment il parvient à gérer les états d'âme de ces deux femmes-là? Donc, ce sont des choses vécues ici au Sénégal et plus particulièrement en Afrique. Donc, pour tout ce qu'on essaie d'améliorer ou bien de faire amener dans notre propre type de réalisation, on sait bel et bien que le cinéma, il y a du langage. Donc, au début, il faut savoir ces langages-là, les valeurs de plan, comment raconter ces histoires. Donc, une fois que ces langages-là ont été connus, donc nous, tout ce qu'on peut faire, essayer de bafouiller ça. Parce que ce sont des personnes, des êtres humains, qui ont inventé ce langage-là. Pourquoi nous aussi, en tant que des êtres humains, nous devons créer aussi notre propre langage de cinéma en essayant de voir des caméras à l'épaule, des images qui bougent, des plans subjectifs, tout ce qu'on a essayé de créer à travers nos projets de production. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'on nous dit souvent, ici en Afrique, quand tu crées quelque chose, les gens te critiquent. Mais une fois que tu avances à persévérer, à montrer tout ce que tu as à valoriser à travers ton langage ou bien à travers ce que tu es en train de créer, des gens vont t'accepter. Mmh. Donc, on a fait notre première production avec des langages cinématiques, des images qui bougent, des plans qu'on a même, on peut dire, entre guillemets, créés. Et finalement, les Sénégalais ont commencé à accepter. Autre chose aussi, mmh. on ne peut pas parler du cinéma sans parler des effets sonores et puis de la musique. Mmh. On a essayé d'épuiser ou bien de chercher dans les greniers des musiciens qui ont été là, des chanteurs qui ont été là. On reprend leur musique en le transformant à la modernité. Mmh. Et ce genre de musique-là, on le met dans notre film et les Sénégalais ont bien aimé. Parce que si tu entends une musique de Youssou N'Dour dans le film, directement, le téléspectateur va se rappeler d'un tel événement ou bien d'une telle situation. Avec les bruitages aussi, nous avons des koras, nous avons des calabasses, nous avons des instruments purement africains. Mmh. Et même des ingénieurs sont en train de prendre ces notes-là, les notes de calabasse et autres, et les intègrent dans leur logiciel de composition sonore. Et nous avons ces instruments-là ici et ces instruments ici. Donc, dans nos films, tu sens de la musique purement africaine, du kora, du calabasse, ainsi de suite. Tu sens aussi une ouverture. Mmh. Donc, tout ce qu'on peut dire pour l'instant par rapport... aux techniques que nous utilisons et autres.
Et aujourd'hui, justement, par rapport à cela, nous avons vu qu'aujourd'hui, le cinéma dans chaque pays africain a sa particularité, passant du Nollywood au Nigeria, en venant au Sénégal. Vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, la tendance semble s'inverser. À l'époque, c'était plus les Africains qui avaient envie de jouer dans les films européens. Aujourd'hui, on voit plus d'Européens venir jouer au niveau de l'Afrique de manière générale. Pour vous, qu'est-ce qui justifie cela?
Bon, ce qui justifie cela, c'est la liberté. Donc la liberté dans nos projets. Bon, quand on parle de la liberté, ce n'est pas parce qu'on va traiter des thèmes tabous ou bien des thèmes qui vont toucher directement ou bien indexer certaines personnes. Mais quand un étranger ou bien un blanc ou bien quelqu'un qui vient dans notre continent, dans nos projets, mmh. Cette personne-là a la liberté. Donc, on lui donne des scénarios. Et autre chose aussi, moi, parmi mes deux projets-là, il y a une étrangère. Mmh. Elle est italienne, par exemple, Sarah. Même avec ce nouveau projet-là, si ces personnes-là viennent dans notre projet, on les considère comme nos propres acteurs. Et quand je prends aussi de nouveau mon exemple, moi, je ne fais pas travailler des artistes qui ne sont pas des comédiens ou bien des artistes professionnels. Mmh. Si ces gens qui viennent à l'extérieur du pays travaillent avec nos comédiens et nos acteurs, ils se sentent à l'aise. Parce que les Sénégalais maîtrisent bien, ou bien les Africains maîtrisent bien l'arsenic et ce qui se trouve derrière les caméras. Nos techniciens aussi, auparavant, si un projet a été financé par un producteur d'extérieur, et une fois ici au Sénégal, sur notre territoire, on n'utilisait même pas des techniciens sénégalais. Mais maintenant, on exige les producteurs qui viennent d'extérieur de faire travailler les techniciens sénégalais. Des jeunes comme moi se concentrent tout le temps sur des formations, sur les tutoriels, pour savoir telle caméra, comment on l'utilise. Jusqu'à présent, si tu amènes un boîtier qui vient de sortir tout de suite et tu le donnes à un technicien sénégalais, il pourra manipuler ce boîtier-là, ce caméra-là, un chef d'écho, quelqu'un qui gère la lumière. Donc, du coup, la production ici au Sénégal est beaucoup plus facile sur le côté logistique, côté artistique et technique que par rapport à l'étranger. Mmh. Parce que là-bas, il y a beaucoup d'exigences. Ici, il y a des exigences parce que tu dois trouver une autorisation de tournage, chercher des fonds et quelque chose d'autre. Mais puis, avec les moyens du port, tu pourras travailler avec ces acteurs-là. Parce que ce sont des acteurs et des techniciens du jour au lendemain qui travaillent pour le cinéma. Et si tu les appelles dans un projet, avec les moyens du bord, tu pourras travailler et sortir une bonne production.
Et justement, nous allons revenir sur aujourd'hui les enjeux, aussi la position actuelle du cinéma africain dans le monde, comment aujourd'hui le cinéma évolue en écoutant cet élément, avant de revenir avec également notre invité, Mas Kassé.
Et si la meilleure carte postale de l'Afrique n'était plus une photo mais un écran? Aujourd'hui, l'audiovisuel devient l'un des plus puissants moyens de valorisation du continent. Du Nigeria avec Nollywood, à l'Afrique du Sud, en passant par le Sénégal ou le Maroc, chaque film, chaque série, chaque documentaire raconte une Afrique plurielle, vivante, magnétique. Les paysages naturels deviennent des décors de rêve. Les traditions, les langues, les savoir-faire deviennent des scénarios fascinants. Et le monde regarde, curieux, conquis. Grâce aux nouvelles technologies, l'Afrique entre dans les salons du monde entier, non plus comme un cliché, mais comme une expérience authentique. Mieux encore, l'audiovisuel crée du désir, attire les touristes, booste les économies locales et donne une voix à ceux qu'on n'entendait jamais. Alors oui, aujourd'hui, caméra au point, l'Afrique écrit sa propre histoire et elle mérite un Oscar pour ça.
De retour avec bien évidemment notre invité Mas Kassé, donc aujourd'hui l'un des acteurs du cinéma nouvelle génération, parce qu'il s'agit d'une nouvelle génération. Aujourd'hui, Mas, nous avons constaté, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, qu'il y a beaucoup plus de jeunes comme vous, qui ont la majeure partie moins de 30 ans, qui évoluent dans ce milieu du cinéma, qui innovent à travers leur création, à travers les effets spéciaux et tout. Aujourd'hui, comment voyez-vous l'émergence des jeunes dans le cinéma, pas seulement au Sénégal, mais en Afrique?
Bon, l'émergence des jeunes africains et sénégalais dans le cinéma n'est rien d'autre qu'un travail qui a été fait pendant depuis 10 ans, 15 ans. Parce que nous sommes des jeunes qui travaillent actuellement avec des clips vidéo, des documentaires et autres. Nous étions, par exemple, un groupe qui fréquentait les mêmes écoles. Mm-hmm. Donc, à chaque fois quand on descendait de l'école, donc on allait sur Internet, on regardait comment réaliser ce film, comment réaliser ces effets spéciaux, comment. Et nous avons grandi sur ça. Et ce sont ces mêmes générations-là qui travaillent actuellement. Par exemple, quand je prends le cas de Reverse Studio, donc on travaille à bas âge. Ce sont des jeunes en moins de 10 ans, 12 ans, qui avaient l'habitude de manier les logiciels, d'utiliser des caméras. Donc, cette fois-ci, on est en 2025. On ne se bénéficie pas des formations à l'extérieur, mais on se bénéficie de ce que l'Internet nous donne. Mmh. Aujourd'hui, quand je veux modéliser, par exemple, quelque chose, je vais directement sur Internet, je tape comment modéliser ça, comment faire ça. Et on me dit, avec tel logiciel, tu pourras modéliser, faire l'animation, et ainsi de suite. Du coup, ces jeunes-là ont plus la possibilité et surtout la patience. Parce que tu vas faire des nuits enchaînées, sans dormir, regarder des tutoriels pendant 5 jours, 6 jours pour avoir un résultat de 5 secondes ou bien 30 secondes. La patience que nous avons et l'ambition donc, nous permet de voir ces jeunes-là perfectionné dans l'audiovisuel.
Perfectionné dans l'audiovisuel et aujourd'hui une ouverture qui ne se limite plus à dans votre pays. Vous tendez, comme plusieurs jeunes, à vous ouvrir en Afrique, mais surtout dans le monde. Quand vous voyez aujourd'hui donc le cinéma africain s'exporter de mieux en mieux qu'il y a, comme vous l'avez dit, 10 ans en arrière plutôt, qu'est-ce que cela vous inspire et comment également vous, dans vos projections, vous espérez vous ouvrir plus également sur le plan continental et mondial?
Bon, pour ce phénomène-là, le fait d'extérioriser nos productions, d'abord, nous avons des commissions. Par exemple, quand on prend le cas de Fotika, donc ils financent des projets. Mais en général, ce que nous, la jeune génération, nous avons compris, je ne vais pas attendre d'ici 2, 3, 4 ans pour préparer un projet de long métrage afin de l'exporter dans des festivals ou bien dans des salles de cinéma. Du coup, ces financements-là, on ne peut pas l'avoir ou bien on ne va pas attendre ces financements-là pour exporter nos projets. Ce qu'on va faire, avec les moyens du bord et ce que nous avons, créer d'abord des films pour nos parents, d'abord pour les Sénégalais. Et si une fois les Sénégalais ont été convaincus à travers nos projets, là, on pourra extérioriser ce projet-là. Par exemple, depuis un certain moment, nous avions travaillé avec le HR, le Haut Commissariat des Réfugiés. Mmh. Parce qu'au début, c'était un documentaire qu'on devrait faire dans la vallée du fleuve. Ils ont cherché, il y avait un appel d'offres. Il y avait pas mal de producteurs et de réalisateurs qui ont été postulés. Nous, lorsqu'on a présenté ce que nous avions fait, cet organisme-là a directement validé cette production. Et une fois projeté, ils nous ont dit, presque dans l'Afrique de l'Ouest, on a eu de très bonnes qualités, on a eu une réalisation super. Donc ça nous a permis d'exporter notre produit. Et une deuxième fois, on a travaillé avec OIF, on a travaillé avec Dramaturge, et avec Drame Éducation. Ce sont des organismes qui sont à l'extérieur du pays. Ce qui nous a permis d'avoir ça, c'est le fait de travailler à la base, de montrer à travers YouTube, à travers nos pages, ceux qui sont à l'extérieur du pays, que des jeunes issus du Sénégal ou bien de l'Afrique sont en train de faire un travail extraordinaire. Parce que on tourne avec des caméras approuvées par Netflix. Mmh. On tourne avec des objectifs, des logistiques, donc approuvés par Netflix. Si un jeune issu de l'Afrique ou bien du Sénégal est capable de manier ces matériels-là, il n'y a pas de différence entre un réalisateur qui est à l'extérieur du pays, qui travaille avec des conditions beaucoup plus adéquates et on parvient à avoir des mêmes résultats. Donc ce qu'on attend aujourd'hui, il y a Canal Plus ici, il y a TV5, pour l'instant, ils ne nous croient pas. Ils ne pensent pas que ces jeunes-là vont faire des réalisations super. Et ça m'a une fois arrivé en parlant avec un réalisateur qui a déjà présenté ses projets à Fespaco, Cannes, ainsi de suite, Molikan. Mm-hmm. Je lui ai dit, pourquoi vous amenez vos montages, vos post-productions à l'extérieur du pays, alors qu'il y a des jeunes qui sont ici au Sénégal qui sont capables de faire ces mêmes travaux-là. Mm-hmm. Un jour, il m'a testé avec la bande-annonce du festival Dakar Court. Mm-hmm. J'ai filmé la bande-annonce, j'ai monté la bande-annonce. Une fois diffusée sur TV5, ils ont envoyé un message, un mail, en appréciant et en disant quel est le technicien qui a monté la bande-annonce. Directement, mm-hmm. il a copié le mail et me l'a envoyé. Donc, je lui ai dit, c'est ce qu'on vous avait dit, on peut faire quelque chose et utiliser par d'autres pays parce qu'on en est capable. Juste, c'est des problèmes de moyens qui nous posent à réaliser telle et telle chose. Parce qu'un budget de par exemple, de 100 000 euros, 200 000 euros est toujours différent d'un budget de 20 000 ou bien 30 000 euros.
Et aujourd'hui, par rapport même à cela, comme vous venez de le dire, le principal obstacle donc, des jeunes scénaristes, réalisateurs sénégalais, africains, de manière générale, c'est le problème de moyens. Et comment aujourd'hui vous parvenez à vous en sortir malgré la situation? Y a-t-il un accompagnement étatique? Où trouvez-vous vos fonds et quelles sont les difficultés?
Bon, pour les fonds, nous, on ne va pas attendre le FOPICA, c'est-à-dire que le fonds alloué par l'État pour la promotion et faire de la production. Nous, ce qu'on fait, d'abord, on ne peut pas faire des réalisations de courts-métrages ou bien de longs-métrages dessinés à l'extérieur du pays. Parce qu'en tant que réalisateur, on ne peut pas ou bien on ne doit pas attendre 4 ans, 5 ans pour faire un long-métrage et attendre encore 4 ans. La population de notre pays ou bien nos téléspectateurs ou bien les fans de l'audiovisuel ou bien du cinéma ne vont pas avoir des productions. Nous, ce qu'on fait, pour l'instant, des séries télévisées. Mmh. C'est-à-dire que 26 épisodes de 26 minutes, on prend 4 mois, 5 mois donc, pour faire la réalisation d'une vingtaine d'épisodes. Pour les fonds, ce sont des risques parce qu'on aime ce qu'on fait. On vend nos biens, on fait des prêts bancaires. Après, les gens ne nous croient pas pour l'instant. On fait de telle sorte pour réaliser des productions aimées par les Sénégalais. Et une fois les Sénégalais aiment ces productions-là, on diffuse sur YouTube. Et à la télévision, donc, on fait des partenariats avec des télévisions sur place. On divise des séries. Il y a des partenaires, des sponsors. Donc, le sponsor vient, il achète les 26 épisodes. La télé prend sa partie et nous, un pourcentage. Et nous aussi, la production, on prend notre pourcentage. Au fur et à mesure qu'on fait des productions, là, on risque d'avoir des bénéfices ou bien des retours sur investissement. Mais pour l'instant, on le fait par amour, on le fait pour satisfaire la population mondiale que des Sénégalais sont capables de réaliser des films. Une fois qu'on octroie des fonds ou bien des investisseurs viennent, on est là. Mais pour l'instant, c'est avec les moyens du bord. On ne peut pas aller au niveau d'État parce que attendre 1 à 2 ans pour recevoir ces budgets-là ou bien ces fonds-là, on n'a pas ce temps-là parce que le temps file. Il faut qu'on impose qu'on est capable de partir à zéro. Et c'est ce qui est arrivé avec Merodi et pas mal de boîtes de production, Bikini et Vinpro. Au début, ils prennent leur propre fonds et investissent sur des séries télévisées. Et actuellement, ils peuvent faire plus de 5 séries par saison, 5 séries en même temps qui passent à la télé et sur YouTube. Et à travers YouTube, on peut recevoir des fonds, mais ce sont des fonds mini qui ne coûtent rien, juste pour gérer quelques détails. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec les budgets, prendre notre propre fonds et faire des prêts bancaires et des dettes, en sachant que d'ici 1 an, 2 ans, ce sont des investissements qu'on fait. Il y aura des investisseurs qui viendront, il y aura des partenaires qui viendront. Parce qu'on travaille sur l'émancipation de la femme, sur les enfants, on travaille sur beaucoup de thèmes où il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin de ces genres de thèmes-là pour véhiculer leur message. Et on attend ça pour avoir des financements.
Et aujourd'hui, la tendance, bien évidemment, c'est l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est devenue quand même l'innovation majeure dans le domaine de l'audiovisuel. Comment parvenez-vous aujourd'hui à lier l'intelligence artificielle et à l'incruster même dans vos réalisations?
Bon, l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire du travail sans l'intelligence artificielle. Parce qu'auparavant, on regardait des tutoriels. Il n'y a pas une différence avec l'intelligence artificielle. Jusque-là, tu saisis un texte et directement, il te donne ce que tu veux. Et à partir de cette réponse-là, tu pourras faire une symbiose ou bien enlever telle chose et telle chose. Par exemple, quand je prends mon cas, le générique de la série que je viens de terminer juste chez les colocs, mais c'est un générique qui a été créé par 50% à travers l'intelligence artificielle. Parce que je voulais faire un dessin animé à travers le générique. Mais vu la situation auparavant avec Photoshop, on perdait plus de 5 jours ou bien 4 jours pour dessiner un personnage et afin de l'animer. Mais à travers l'intelligence artificielle, je fais une capture d'écran avec l'image que je veux avoir en forme de dessin animé. Directement, en moins de 5 minutes, ça me donne cette forme-là. Et là, j'intègre directement dans le montage. Et c'est quelque chose, un travail que j'ai fait en moins de 24 heures. Et en temps normal, dans les CNTP, là, ça devrait me prendre minimum 15 jours. Donc, l'intelligence artificielle, les techniciens, eh bien, les monteurs ne peuvent pas aller sans l'intelligence artificielle. Mais aussi, l'intelligence artificielle, pour moi, ne pourra pas prendre les postes des techniciens. Par exemple, quand on prend le cas des cadreurs, actuellement, on vient dans les studios télévisés des caméras robotisées. Mais ces caméras robotisées-là seront motorisées ou bien manipulées par des gens qui sont derrière. Et un monteur, avec les intelligences artificielles, tu peux monter. Mais les sentiments que tu as pour donner à ton rythme de montage et ton type de réalisation, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. Juste, on peut avoir moins de personnes sur un travail et ces personnes-là, manquant-là, seront remplacées par l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, nous, on travaille ça depuis qu'il n'est pas intelligence artificielle. Parce que ce sont des choses qui ont été améliorées pour avoir ça. Même avec nos scénarios, on ne peut plus écrire des scénarios plus de 400 pages, 1000 pages en écrivant des dialogues. Tu peux venir avec l'intelligence artificielle, tu lui donnes des directives. Je veux une séquence, par exemple, intérieur, jour, cour de la maison, l'homme entre, il regarde à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, crée-moi des dialogues à partir de cette situation. L'intelligence artificielle te donne des dialogues et à travers de ces dialogues-là, tu fais tes corrections, tu fais tes adaptations selon ton pays, selon les réalités de tes dialogues ou bien des dires de ton pays. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc moi, personnellement, je travaille avec l'intelligence artificielle. Auparavant, on avait des plugins qu'on installait dans les logiciels parce qu'un logiciel n'est jamais complet. C'est comme une maison, tu achètes ton terrain, tu construis, chaque fois tu fais des aménagements, tu fais des installations. C'est ce qui se passe actuellement avec le travail et l'intelligence artificielle. Et
également, grâce à l'intelligence également, des jeunes comme Mas Kassé qui évoluent un peu partout en Afrique pour participer à la promotion donc, de la destination africaine, tant sur le plan culturel, économique, mais cette fois-ci sur le plan cinématographique. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous, M. Kassé. Merci encore de nous avoir servi de guide aujourd'hui dans l'évolution du cinéma, des séries télévisées en Afrique et particulièrement dans votre pays.
Merci encore une fois, M. Tunkara, pour l'opportunité d'exporter ou bien d'extérioriser ce qui se trouve dans notre pays. Un plaisir de participer à votre émission.
Le plaisir est partagé pour l'intérêt de l'Afrique. C'était le dernier numéro pour suivre l'actualité dans la saveur africaine. Au plaisir.